One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenéen.
Bonsoir, je suis Valérie Donzelli.
Bonsoir, je suis Ohad Naharin.
Bonsoir, Tom Rehman.
Ping Pong, la culture sans limite. Ping Pong.
Ce soir dans Ping Pong, il sera question d'écriture, du mouvement et de la voix, et nous serons tous gaga, croyez-moi.
Avec la cinéaste, comédienne et scénariste Valérie Donzelli, qui de retour du Festival de Cannes, où elle était présidente du jury de la Semaine de la Critique, eh bien, vient nous présenter Suivez la mesure, son nouveau film en forme de carte blanche autour du ténor des ténors, Jonas Kaufmann, un film proposé sur Troisième Scène, la plateforme numérique de l'Opéra National de Paris.
Et avec Ohad Naharin, un des plus grands chorégraphes du monde, il dirige depuis 25 quand la troupe israélienne Batsheva Dance Company et a libéré la danse contemporaine en un mouvement baptisé Gaga. Monsieur Gaga, c'est le nom du documentaire que lui consacre Tom Rehman. Il l'a suivi pendant 7 ans. Le film est un énorme succès en Israël et sort pour la première fois en France le 1er juin.
Instead of going back, just let it happen.
Dance started in my life as long as I remember myself. The years in the kibbutz, it's something I always missed growing up. We slept together, we washed together, we ate together.
הופעה ראשונה, מגיעים 100 איש. חלק יוצאים באמצע. עוד יום ועוד יום ואין קהל. פרט משדר ביטחון מוחלט. כאילו זה פצצה. זה דינמיט.
Do you want to dance?
Vous êtes dans le documentaire de Tom Rehman, Monsieur Gaga, sur les pas d'Ohad Naharin, qui sort en salle mercredi prochain, sur les pas, donc dans les pas de ce grand chorégraphe israélien. On entend dans cette bande-annonce trois des éléments clés de ce film que Tom Rehman a mis 7 ans à réaliser. Le lâcher-prise, la solitude et la confiance explosive de ce danseur et chorégraphe, et puis la nostalgie du kibbutz jusqu'à l'âge de 5 ans. Ohad Naharin, vous avez grandi dans un kibbutz, vous en gardez la nostalgie, celle de palpiter au sein d'un corps collectif, semble-t-il. Et je voudrais savoir si vos chorégraphies, depuis notamment votre Tabula Rasa jusqu'aux séances de danse gaga au milieu d'une foule qu'on voit dans le film de Tom Rehman, sont une tentative de recréer ce corps collectif qui palpite dans chacune de ses parties.
No, I think my life experience, how we penetrate my creative process.
Je crois que mon expérience de vie imprègne mon travail créatif, mais l'objectif n'est pas de donner une réflexion sur ma biographie. Il s'agit plus de fantasmes, de choses que je n'ai pas vécues et qui reste à l'état de fantasme. Donc je suis dans la recherche, l'amour du mouvement, l'amour de la composition, l'amour des danseurs et ce sentiment de partage. Partage de ce que l'on sait et partage de ce que l'on apprend et puis le plaisir de la découverte. Il ne s'agit pas tellement d'essayer de retrouver le passé ou de raconter telle ou telle histoire. Non, il ne s'agit pas de moi, mais mes faiblesses apparaissent très clairement dans ce que je fais.
Vous avez parlé de la notion de collectif et dans la salle de montage, le mot collectif a été utilisé très souvent. Moi,
ma perception d'Ohad est différente de la sienne, évidemment, mais on a vu, et c'est là ma perception et ma façon de donner du sens à la vie. Ohad a donc grandi dans un kibbutz où la notion de collectif était très importante. La famille a quitté le kibbutz, ça a été traumatisant pour lui. Et moi, ma perception d'Ohad, et c'est mon point de vue qui n'engage que moi, c'est que depuis lors, il essaye de trouver un nouveau foyer, une nouvelle collectivité. Et
Bashiva, c'est une espèce de maison pour lui. Donc, il s'agit de
Bashiva, c'est la compagnie de danse que dirige Ohad en Israël.
Une question pour commencer, parce qu'il y a des auditeurs profanes aussi qui nous écoutent, qui ne connaissent pas ce fameux mouvement Gaga qui donne son nom au documentaire que vous réalisez, Tomer Eman. Est-ce que vous accepteriez, Ohad Naharin, de nous dire ou de nous faire expérimenter, peut-être ici dans le studio de France Culture, ce qu'est le Gaga?
Gaga is the movement language that I
developed. Gaga, c'est le langage du mouvement que j'ai mis au point. Cela résulte du besoin de communiquer avec les danseurs pour qu'ils interprètent mon travail. Et cela est devenu un petit peu une réflexion sur la façon dont on danse et le pourquoi de la danse. C'est l'idée suivante. Il faut écouter son corps avant de lui dire quoi faire. Grâce à Gaga, on peut découvrir notre mouvement instinctif, notre passion, notre pouvoir explosif, le rapport entre le plaisir et l'effort, les instincts animaux en nous, l'efficacité du mouvement et la capacité à sublimer nos émotions pour arriver à la clarté de la forme, l'autodérision aussi, et puis cette notion de forces qui sont liées à la longévité, le flux des informations, l'équilibre, et en réalité c'est un exercice physique.
Valérie Donzelli, vous, cinéaste, peut-être davantage que la danse, vous avez exploré, vous ne cessez d'explorer la question de l'amour et vous avez pu dire un peu à l'instar de ce que Ohad Naharin dit de la danse qui mêle l'agressivité et la délicatesse, qui mêle l'explosivité et la lenteur. Vous, vous aimez penser, ou en tout cas vous dites que pour vous, l'amour c'est à la fois comme un poison, le médicament et la maladie. Il y a quelque chose de commun dans ce que, qui résonne en vous dans ce que dit Ohad Naharin sur sa danse Gaga?
Oui, en tout cas, il y a quelque chose moi qui me parle avec la danse et l'expression du corps sans les mots justement. Et c'est vrai que souvent on compare mes films à des films qui sont dansés et qui sont très chorégraphiés, même s'il n'est pas question de comédie musicale. Mais c'est vrai que le principe même du mouvement est déjà pour moi de la danse, enfin c'est-à-dire que le fait même de marcher peut évoluer vers quelque chose de dansant en fait, c'est la base même, c'est le mouvement. Et c'est vrai que alors après ça répond pas vraiment à ma question parce que je suis partie moi du coup sur la danse et je trouve ça passionnant de les écouter et d'écouter la question du mouvement Gaga et tout ça que je connaissais pas du tout. Et en fait ça me fait presque penser moi à des choses comme la méditation, c'est-à-dire de pouvoir avoir un accès à son corps et connaître ses limites, qui est quelque chose aussi qu'il faut pouvoir quelque chose qui est utile dans la relation amoureuse, de connaître ses limites, de pouvoir voilà, de pas être c'est vachement intéressant.
Vous oui, Tomer Eman voulait réagir.
Oui, pour revenir là-dessus, encore une fois, moi ce que j'aime bien, c'est que parfois je pense que Ohad est quelqu'un de formidable, parce que ce mouvement Gaga, moi je l'ai vécu dans Tabula Rasa 96-97 à New York. J'ai parlé avec des danseurs et pendant le spectacle, donc il était à l'apogée de sa carrière, hein, et il est tombé, il s'est blessé, il s'est vraiment fait mal. Et le médecin lui aurait dit, eh bien, tu auras de la chance si tu arrives à te déplacer pour aller jusqu'à la fenêtre de ta carrière, tu fais une croix dessus. Ohad était assis chez lui. Il était entouré, certes, mais il fallait qu'il découvre cela à partir de son propre corps. Donc, tout ça pour dire que ce qu'il y a de très puissant dans le Gaga, c'est que le Gaga est né dans le corps d'Ohad. Il a fallu qu'il se force lui-même pour pouvoir remarcher, voire redanser. C'est un miracle, c'est formidable de trouver cela, de puiser cela en soi-même.
Il y a une autre résonance avec le gaga que je retrouve dans le film que vous réalisez, Valérie Donzelli, donc pour l'Opéra de Paris. Vous aviez déjà filmé la danse pour Main dans la main, mais on va écouter tout à l'heure, si ça s'écoute, hein, la chorégraphie de ce film. En tout cas, là, vous avez donc une voix à filmer. Et quelle voix, Jonas Kaufmann, un des plus grands ténors du monde. Et vous avez décidé de répéter ce mot dans le commentaire voix off qui accompagne le film, l'extase contrôlée. La façon dont lui doit apprendre à remettre de l'émotion, à perdre le contrôle de l'air sur la voix pour remettre de l'émotion. Est-ce que justement ce concept d'extase contrôlée, il n'est pas complètement en corrélation? Et pourquoi ça vous a fasciné? Parce que vous le répétez plusieurs fois.
Bah oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert en discutant avec lui, où il me parlait de ce moment, en fait. C'est-à-dire que pour réussir à donner de l'émotion en chantant, il faut réussir à libérer du contrôle, en fait, mais en même temps pas trop en libérer, parce que si on libère le contrôle de l'air sur la voix, on n'arrive pas non plus. Donc c'est une forme d'extase contrôlée. Enfin, il l'explique hyper bien. Et du coup, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que cette extase contrôlée, c'est quelque chose qu'on retrouve finalement dans tout processus artistique. Que ce soit le cinéma, que ce soit la danse, que ce soit, c'est à un moment donné, il faut réussir à contrôler sa propre extase, quoi. C'est-à-dire, si on contrôle pas, ça part dans tous les sens, et donc il faut réussir.
Et la technique à l'inverse.
Voilà, exactement. Donc c'est un rapport qui est entre la technique et le plaisir et l'émotion, quoi, et la jouissance, en fait. Donc c'est vraiment de l'extase, parce qu'on a vraiment, il est vraiment question de jouissance, quoi. Et en même temps, il faut réussir à contrôler ça pour pouvoir quand même faire fonctionner la chose première, qui est le travail du chant, quoi.
Et Valérie Donzelli, de danser avec ses mains sous les yeux de Hannah Arendt en expliquant cette extase qui fait penser aux mystiques, hein, Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix. Mais la notion d'extase contrôlée, est-ce que ça résonne dans votre oreille de chorégraphe qui jouait sur justement le paroxysme et les limites, comme vous le disiez, Hannah Arendt?
Since I understood only fraction of what, but I think I can relate.
Je crois que je comprends bien, oui, cette notion de maîtrise, parce que la perte de contrôle, je n'y crois pas. Moi, je crois à la liberté, je crois en l'exagération, je crois au dépassement de soi-même, je crois aussi au fait d'être en dessous de ce qu'il faut être exprimé, être dans la discrétion. Mais tout ça, c'est un point de vue de perspective. Ça, c'est très important pour l'artiste, notamment l'artiste sur scène. Même si on crée le chaos sur scène, qu'il s'agisse de danse ou de création de chaos émotionnel, cette notion de maîtrise donne à l'artiste la capacité d'aller au-delà de ses limites plutôt que de se perdre.
Vous dites, Hannah Arendt, que vous préférez un interprète maladroit à un technicien virtuose. Finalement, dans le dosage de l'extase contrôlée, il faut privilégier l'extase.
If I prefer clumsy,
maladroit.
No, I tell you what I prefer.
Non, je vais vous dire ce que je préfère. Ce que je préfère, c'est quelqu'un qui me fait me sentir transformé. Peu importe que ce soit excellent ou non. Les gens recherchent l'excellence, alors que l'excellence côtoie la médiocrité. Et le sublime, c'est encore autre chose. Et cette notion d'excellence, c'est une notion de l'establishment. On peut être excellent et rester dans les limites de l'establishment. Donc, maladroit, bancal, pourquoi pas? Moi, je peux assister à un spectacle comme ça, et puis il peut y avoir une minute dans ce spectacle capable de me transformer. Peut-être que tout le reste est maladroit, mais moi, je préfère ça.
Valérie Donzelli, vous opinez du chef en écoutant Hannah Arendt. Ça ressemble un peu à cette philosophie de la béquille aussi qu'on peut retrouver dans vos films, comme le dit Jérémy Elkaïm.
Oui, c'est plus qu'est-ce qui nous procure de l'émotion. Enfin, j'ai l'impression que quand il parle de ce qui le change, lui, enfin, c'est comment les choses nous arrivent, en fait. Et c'est vrai que moi, par rapport à mon travail, etc., j'ai pas tellement le goût de la perfection. J'ai l'impression qu'une prise parfaite n'existe pas, qu'en soi, la perfection n'existe pas et qu'elle n'est pas très intéressante. Et que finalement, c'est ça qui est assez intéressant dans le cinéma, c'est qu'on cherche à contrôler quelque chose d'incontrôlable et qu'il faut réussir, en fait, à faire rentrer l'accident, la vie, dans un cadre hyper carré, quoi. Et c'est toute la difficulté. Et je pense que, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire rentrer beaucoup la vie et après de boxer avec, quoi, d'essayer d'en faire sortir quelque chose d'émouvant, quoi.
Et à propos de la vie et peut-être de sa dimension bancale ou du moins disloquée, Tomer Eman, vous qui réalisez Monsieur Gaga, donc ce film pour lequel vous avez suivi pendant 7 ans Oad Naharin et retracé toute sa carrière, vous interviewez au début du film le père d'Oad Naharin qui vous dit « La vie est faite de fragments qu'on essaye de réunir sans jamais y parvenir ». Est-ce que pour vous, le cinéaste qui travaillait avec des séquences, avec des plans, avec des fragments, et singulièrement dans ce film où il y a à la fois des archives et des images que vous avez tournées, vous, dans le studio, pour voilà, que vous avez tournées en images directes, si je puis dire. Est-ce que vous-même, vous avez essayé de réunir les fragments de la vie de Oad Naharin sans jamais, au fond, percer le mystère ?
Oui, c'est
très intéressant ce que vous citez, cet entretien avec son père. Ce passage reste très fort dans mon esprit. J'ai passé 9 heures avec son père. Son père a près de 90 ans, il est encore vivant. C'est un homme très impressionnant, très puissant, et il m'a raconté des histoires incroyables à propos de son fils Orhan. Et moi, je n'ai utilisé qu'une phrase. Et il y a des gens ici à Paris et des gens à Munich qui m'en veulent. Pourquoi est-ce que vous nous montrez si peu de choses à propos de son père ? Mais cette phrase, elle est tellement puissante. Et c'est pratiquement la devise du film, la devise de la vie de la création artistique. Votre vie est constituée de fragments. Et c'est la première fois dans une interview qu'on fait le rapport entre l'assemblage de fragments et la créativité. Alors que c'est pourtant critique dans ce film, on a l'impression on sait où on est, et puis à ce moment-là, le film vous trompe. Peut-être que vous êtes dans le présent, dans le studio de la troupe Bathsheba, alors que, en réalité, la scène peut être coupée, on passe à autre chose, et on remonte en arrière, on revient au kibbutz d'Oran 50 ans auparavant, alors on avance, et quand on a l'impression de savoir où on est, et ben, paf, on se retrouve au Japon, vous voyez? Et ben, c'est le film est fait comme ça. Et c'est au public, de faire son propre travail pour réfléchir et comprendre.
De reconstituer les fragments.
Au revoir, mademoiselle Marshall. Jeune homme.
Vous me remercierez plus tard, sortons vite d'ici et une voiture nous attend. Ah, les voilà.
Non, je ne monterai pas dans cette voiture.
Mais où allez-vous ?
À l'opéra chercher mon skate.
Ouvrez-moi. Ouvrez-moi.
Mais montez dans cette voiture, je vous dépose.
Moi, je préfère marcher.
Et moi, j'ai mal aux pieds.
Je m'en fous.
Bonjour, Constance de la Porte.
Quelle fougue, un vrai tigre! Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est excitant.
Retourne dans la voiture, attendons devant l'opéra. Devant l'entrée des artistes! Devant l'entrée des artistes, crie-t-elle. C'est Valérie Lemercier, Jérémy El-Khaïm. Nous sommes dans Main dans la Main, votre film Valérie Donzelli, qui parlait donc de cette relation entre Valérie Lemercier, qui dirige la grande institution à l'époque, et ce Jérémy El-Khaïm vitrier. Et il y a cette idée de départ qu'ils sont donc synchronisés, ils sont faits pour être ensemble, ils font les mêmes mouvements, ils ne peuvent pas se quitter. Et surtout, cette scène, je pense qu'on l'a entendue à la radio, est faite de pas. On a presque l'impression d'écouter de la danse, et en revoyant cette scène à la sortie du commissariat, je me suis dit, mais oui, c'est une vraie chorégraphie. Oui. Comment vous l'aviez pensé ? Parce que voilà, non seulement vous avez filmé la danse, mais vous en avez inventé une aussi pour faire le film.
Oui, c'était vraiment l'idée de deux êtres qui ne peuvent plus se séparer physiquement et qui synchronisent tous leurs mouvements. Et donc, de pousser l'idée de la chorégraphie comme mouvement jusqu'au bout avec main dans la main. Et donc ils se suivent, donc ils marchent l'un derrière l'autre, quand il y en a un qui se retourne, l'autre se retourne, et ils ont donc travaillé avec des chorégraphes et tout, ils ont fait cet entraînement de faire les mouvements de façon synchrone. Et c'est intéressant parce que quand on l'écoute comme ça, juste au son, et qu'on écoutait l'extrait tout au début du film,
du documentaire
on entendait justement le rythme des pas, et il y avait quelque chose de très énergique comme ça, où on sentait le corps qui bouge et les pas. Et en fait là, c'est vrai qu'il y a exactement la même sensation, et je l'avais jamais écouté en m'y intéressant de cette façon-là, quoi.
Oad Naharin, pour vous, le chorégraphe, qui, avec en particulier cette technique de danse dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle la danse Gaga, vous dites qu'il faut écouter la moindre parcelle de son corps. À l'instant, avec Valérie Donzelli, on écoute son cinéma. Qu'est-ce que ça donne, du point de vue du chorégraphe, d'écouter son corps quand on danse ? C'est du son aussi ?
It's like
Alors il y a le cliché, on pense qu'il faut danser devant une glace, et moi j'interdis l'usage du miroir. Je pense que le miroir nuit à la danse, et je convainc les gens de ne pas utiliser de miroir. Parce que lorsque l'on écoute son corps, il ne s'agit pas simplement de se plonger à l'intérieur de son corps, il s'agit de reconnaître le périmètre des sensations, le rapport à l'univers, le rapport aux autres, et ne pas se voir soi-même quand on danse. Il s'agit de ressentir la danse. Et dans la danse, les gens se regardent dans la glace. Donc, ils n'écoutent plus leurs sensations. Ils regardent le monde par le truchement de leur propre image. Il n'y a rien de pire.
Mais qu'est-ce qu'on entend ? On entend son souffle, on entend son pouls, le battement du cœur. On entend les os qui craquent.
What does it mean to listen?
Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend?
There's many things, but something
very simple. Il y a de nombreuses choses, mais tout simplement, on écoute le poids des différents éléments du corps, la pesanteur. C'est formidablement important pour le mouvement. Là, on n'écoute pas la pesanteur. Vous, là, vous n'écoutez pas du tout le poids des différents éléments de votre corps, la sensation de votre peau et l'effet de la température sur votre peau. Vous n'écoutez pas ça. Votre peau réagit à vos vêtements. Vous n'écoutez pas ça. Vous n'écoutez pas le flux de l'énergie. Pourtant, il faut le faire.
Ça enregistre. J'arrête. Est-ce que là, ça enregistre ?
Ah !
Ce qui est beau, c'est quand il fait...
Jonas Kaufmann dans le rôle de Faust pour la donation de Faust de Berlioz. C'est ce que vous avez filmé pour l'Opéra de Paris, Valérie Donzelli. Vous avez déjà filmé la danse, je l'ai dit, avec Main dans la main, votre troisième long métrage. Donc là, lorsque vous avez carte blanche à l'Opéra de Paris, vous décidez de faire autre chose, de filmer une voix, le ténor Jonas Kaufmann, que vous rencontrez à ce moment-là pour la première fois. Pourquoi vous avez avant tout choisi d'écrire par le son? Et on l'a entendu un petit peu dans cet extrait.
C'était pas une décision, enfin les choses elles se décident pas de façon comme ça totalement théorique. Je me dis pas je vais écrire par le son parce qu'il est chanteur, etc. Les choses, quand je disais tout à l'heure que je boxais avec la vie qui rentre dans le cadre, etc., c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au départ, Jonas Kaufmann, c'est Jonas Kaufmann, donc il a un emploi du temps hyper chargé, etc., et c'est compliqué de le rencontrer. Je savais moi-même pas très bien comment j'allais aborder les choses. La seule chose que je savais, c'est que je voulais pas l'intimider, et donc pour pouvoir l'approcher au plus près, je voulais juste le photographier. Comme un documentaire, mais en photo, en fait. Je voulais être seule avec lui. Et la seule chose que je puisse faire totalement seule, en fait, c'est des photos. Parce que la caméra, ça nécessite tout de suite une prise de son, etc. Bon, il se trouve que finalement, il n'y avait pas non plus d'ingénieur du son et qu'on a fait ça à deux avec mon assistante Alba et celle qui a fait la prise de son. On a acheté un zoom, enfin, on a vraiment bricolé le truc et c'était...
C'est un appareil pour enregistrer le zoom.
Voilà, et c'était passionnant, mais ça s'est passé comme ça. Et en fait, de façon totalement intuitive, après avoir passé du temps avec lui, je me suis dit, mais finalement, ce film, il faut d'abord l'écrire au son et le monter au son et l'image va suivre, en fait. Parce que c'est une affaire d'écoute, Jonas Kaufmann. C'est quand même quelqu'un qu'il faut écouter plus que regarder, même si le regarder, se préparer à chanter, c'est absolument fascinant, mais quand même, de l'écouter, c'est quand même la chose la plus frappante, parce que c'est son organe, c'est sa voix, quoi. Et donc c'est comme ça que ça s'est installé dans ma tête, en fait. Ça a été assez, c'est toujours par ricochet. C'est toujours parce que je l'ai rencontré, que j'ai vu comment ça se passerait, que je savais pas très bien où on allait, que et puis progressivement, en fait, au fur et à mesure des entretiens que j'ai eu avec lui et tout, je me suis dit mais finalement. Et puis le son, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément dans la vie. J'aime enregistrer des sons, j'écris avec de la musique, des musiques peuvent m'inspirer des scènes. Les choses sont très liées, je suis pas quelqu'un que de l'image, en fait. 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission volontiers frappante et caressante et qui ne fait pas que de l'image.
Phonographique et chorégraphique à suivre, et même un petit peu de Jean-Luc Godard pour vous faire plaisir, avec nos invités Ohana, Rin, Tomer Eman et Valérie Donzelli.
Mais tout de suite, il est l'heure du Journal de la Culture avec Zoé Sfez. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Et ce soir, dans le dossier du jour, on va parler des instituts français, ces institutions phares de la politique de rayonnement culturel de la France qui ferment les uns après les autres. Le dernier en date, c'est la Maison des Cartes, l'Institut français d'Amsterdam aux Pays-Bas, un beau bâtiment au cœur de la capitale néerlandaise, 4000 mètres carrés édifiés sur pilotis par l'architecte Adrian Dorsman lors du siècle d'or des Pays-Bas. Bâtiment superbe donc, avec une bibliothèque, une médiathèque, un cinéma, mais beaucoup trop cher à entretenir, indique l'État. Après des années de tergiversation, l'État a tout simplement décidé de vendre le bâtiment, de fermer la médiathèque et les cours de langue et de rapatrier les activités culturelles à l'ambassade de France qui est située non pas à Amsterdam mais à La Haye, la ville des institutions. Une idée qui révolte à la fois les Français qui vivent aux Pays-Bas, mais aussi plusieurs artistes français ou amsterdamois. Ils sont une vingtaine à avoir signé la pétition lancée par Benoît Goffin et Céline Lostis, tous les deux anciens directeurs adjoints de cet institut français, diffusé dans le journal Le Monde. Ils y voient la perte d'un outil sans prix.
Alors, à l'Institut français d'Amsterdam, ça se décline par des rencontres littéraires, des conférences scientifiques, des colloques, des expositions. Et aussi deux autres activités qui sont vraiment très importantes, qui sont les cours de langue et la médiathèque. Et c'est ces deux activités-là, cours de langue et médiathèque, qui vont fermer les premières le 30 juin prochain. En fait, le problème de ce bâtiment, c'est que c'est un bâtiment qui est très ancien et qui demande une rénovation importante. Aujourd'hui, l'État français ne veut pas mettre l'argent suffisant pour réparer le bâtiment et a choisi finalement de vendre les locaux. En fait, il y a deux conséquences principales, à mon avis. Il y a d'une part la fermeture de l'Institut français, qui évidemment est regrettable, puisque la France va perdre une vitrine très importante auprès du grand public, un outil fondamental de coopération et de politique extérieure. Et en fait, c'est d'autant plus dommageable qu'aujourd'hui, la France a des liens économiques, politiques, culturels qui sont assez étroits avec les Pays-Bas. Et on peut se poser la question de qu'est-ce que ces liens vont devenir sans un relais tel que l'Institut français.
Mais alors, il faut savoir que la France a toujours joui d'une position dominante en termes de rayonnement culturel, beaucoup plus forte que la plupart des autres pays, amorcée par André Malraux, avec aujourd'hui 96 instituts français à travers le monde, 445 alliances françaises. Mais l'entretien de ces bâtiments coûte trop cher et personne aujourd'hui, ni au ministère de la Culture, ni au Quai d'Orsay, ne souhaite s'exprimer sur cette politique qui vise de plus en plus à vendre ces instituts français, souvent les plus onéreux, qui sont souvent les plus superbe. On indique en off au ministère des Affaires étrangères qu'il s'agit aujourd'hui évidemment d'être moins dépensier et puis surtout de faire de la culture autrement à l'heure d'Internet, alors que l'Institut représenterait un modèle un petit peu vieillot. Mais les dernières fermetures sont très très mal passées auprès des communautés françaises et des artistes. Par exemple, l'Institut de Vienne, installé dans le magnifique palais Clam Gallas, édifice néoclassique du début du 19e siècle avec un immense parc, sa vente au Qatar pour 25 millions d'euros, qui en fera son ambassade dans la capitale autrichienne, a été acté le 11 novembre dernier. Pour le sénateur socialiste des Français de l'étranger, Jean-Yves Lecomte, cette politique est tout simplement odieuse.
Ça fait des années qu'on pousse au crime, on pousse à la vente des bijoux de famille, en disant au ministère des Affaires étrangères, écoutez, si vous vendez quelque chose, si vous vendez un bâtiment, il y a une partie significative de l'argent que vous récupérez. Et de cette manière, finalement, ça fait des années que le Quai d'Orsay vit en vendant des bijoux de famille. C'est d'autant plus terrible qu'à chaque fois, c'est vraiment des outils utiles pour la présence française à l'étranger. Alors, bien entendu, il y a toujours des gens qui ont théorisé le fait que maintenant, il faut faire de la culture hors les murs, aller là où sont les gens pour qu'ils puissent apprendre, qu'ils puissent être à la contact de la culture française. Alors, c'est effectivement important d'aller hors les murs, c'est-à-dire d'aller hors de l'Institut. Mais quand c'est juste une théorie pour finalement expliquer qu'il n'y a plus besoin d'Institut, c'est dramatique parce qu'à la sortie, il n'y a plus rien. Ce que nous avions de spécifique, petit à petit, disparaît. parce que finalement, en théorisant le Hurlemisme, on se met au même niveau que n'importe quel pays du monde qui va ouvrir auprès d'une université quelques cours de langue. C'est vraiment dommage.
Jean-Yves Lecomte, sénateur des Français de l'étranger socialiste, qui souligne qu'en plus, souvent, le compte n'y est pas. Ces bâtiments superbes sont souvent si énormes qu'il y a très peu de repreneurs. Et quand ils sont vendus, c'est souvent dans des conditions opaques, comme ce fut le cas pour l'Institut français de Vienne, vendu alors que le Qatar était le seul repreneur. La mobilisation est souvent très forte contre ces ventes. Elle a permis, par exemple, de faire marche arrière sur l'Institut français de Berlin, la fameuse Maison de France, qui a failli être vendue en 2013, mais qui est restée en place grâce au soutien des artistes et de la communauté française. Pour Céline Lostis, l'argument de la culture hors les murs et surtout l'argument économique ne suffisent pas et manquent cruellement d'ambition.
Alors, effectivement, en fait, les temps changent et clairement, on peut repenser la mission des réseaux culturels en Europe. Ça, c'est évident. Mais à mon sens, la fermeture brutale et la vente des bâtiments sans vraiment stratégie de réinvestissement à plus long terme, pour moi, ça ne peut pas être une réponse satisfaisante. Et en fait, il y a des alternatives qui sont aujourd'hui possibles. Et ces alternatives, elles passent par une valorisation du parc immobilier français. Et en fait, en France, il est assez intéressant de s'intéresser aux centres culturels étrangers à Paris qui, eux, ont développé des alternatives. On peut penser à l'Institut suédois et finlandais à Paris qui ont, par exemple, ouvert des cafés dont les revenus servent aujourd'hui à valoriser des bâtiments. On peut aussi penser à la Maison du Danemark qui est située sur les Champs-Élysées, qui a été menacée de fermeture dans les années 90. Et finalement, le Danemark a décidé de privatiser deux espaces dans cette maison pour créer en fait deux restaurants de cuisine scandinave qui aujourd'hui servent aussi à financer le bâtiment.
La maison Descartes à Amsterdam fermera néanmoins définitivement ses portes en juin. Le ministère des Affaires étrangères indique qu'il va poursuivre sa politique de vente du patrimoine, puisqu'il a ainsi récolté entre 2006 et 2015 quelques 700 millions d'euros à travers plus de 200 opérations immobilières. Et on passe au bref avec le romancier Thomas Reverdy qui a été récompensé par le prix des libraires pour son livre Il était une ville, roman sur Détroit, ancienne capitale de l'automobile aux États-Unis, devenu le cauchemar du rêve américain, publié l'an dernier chez Flammarion. Il a été salué quasi unanimement par la critique. Il a figuré dans de nombreuses sélections, dont le Goncourt, sans réussir toutefois à obtenir le moindre prix. Être choisi par les libraires me rend fou de joie, a indiqué Thomas Reverdy. Ce sont eux qui portent le livre et qui les défendent. Je rappelle qu'une personne a été tuée et 3 autres blessés par balle mercredi à New York lors du concert du rappeur américain T.I. La police vient d'annoncer l'arrestation d'un autre rappeur pour tentative de meurtre. Le rappeur T.I. a fait savoir dans un communiqué publié sur Instagram qu'il avait, je cite, le cœur gros. Notre musique est censée sauver des vies comme elle l'a fait pour moi et pour bien d'autres. Je rappelle que T.I. avant de connaître le succès a fait plusieurs fois de la prison, notamment pour trafic d'armes.
Cette fois, c'est le moment d'ouvrir une deuxième parenthèse et de décrire les sentiments des personnages. Arthur regarde sans arrêt ses pieds, mais il pense à la bouche d'Odile, à ses baisers romantiques. Odile se demande si les deux garçons ont remarqué ses deux seins qui remuent à chaque pas sous son chandail. Franz pense à tout et à rien. Il ne sait pas si c'est le monde qui est en train de devenir rêve ou le rêve monde.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez Jean-Luc Godard, sa voix dans Bande à part, avec cette scène de chorégraphie où on pénètre dans l'intimité, dans la tête des danseurs, Anna Karina en tête. C'est un petit peu comme dans Monsieur Gaga, le film documentaire que Tomer Eman a consacré, pour lequel il a travaillé pendant 7 ans aux côtés de Ohad Naharin, grand chorégraphe qui dirige la Bat Sheva Dance Company en Israël et à travers le monde et qu'on pourra découvrir mercredi prochain sur les écrans français. Ohad Naharin, est-ce que comme dans ce que dit la Godard dans ce film, on danse avec... Certes, le désir amoureux est sexuel, mais est-ce qu'on danse avec ce qu'on a dans la tête à l'instant présent?
Sometimes my head is so full.
Parfois,
that I wish I could make it empty.
J'ai
course.
Tellement de choses dans la tête que je voudrais qu'elles soient vides.
I think dance can help.
Et la danse
to,
peut vous aider à mettre de côté ce qui vous gêne dans votre tête, parce que la danse est liée au plaisir. Et donc, la danse peut être un remède. Ça peut rendre les choses supportables, à tout le moins. Mais si on n'écoute pas ce que l'on a dans la tête, eh bien, à ce moment-là, on n'a pas de sensation. Et il s'agit d'être dans le moment présent. Il faut évidemment se souvenir de là où on vient, mais il faut être dans l'instant présent.
Votre ambition, c'est de rendre à chacun sa danse. Ce n'est pas que les danseurs, les danseuses, par exemple, de la Batsheva Company qu'on voit dans ce film, Monsieur Gaga, dansent vos pas, mais qu'ils arrivent à trouver leur danse, leur voix propre.
I think the idea is that I took it for granted that we are different.
Moi, je pars du principe que nous sommes différents les uns des autres. Mais ce que je veux vraiment, c'est mettre l'accent sur ce que nous partageons, ce que nous avons en commun. Et là, il s'agit de connaissances. Et grâce à cela, on peut créer un terrain commun de connaissances. Et on n'élimine pas ce qui nous rend différents. Donc, je crée une boîte à outils qui s'appelle Gaga, et il s'agit d'un pacte entre moi et les danseurs. Et ils peuvent utiliser cette boîte à outils comme bon leur semble.
Vous voulez réagir, Thomas Reimann, donc vous réalisez le documentaire Monsieur Gaga sur ce fameux mouvement.
What for me strong about Gaga,
ce qu'il y a de puissant dans Gaga, c'est ceci. Oran vous dit qu'il y a un rapport fort entre lui et les danseurs, mais moi, qui ne danse pas et qui ne souhaite pas danser, Gaga, je me dis que c'est pour les gens de tous les jours. Et au début, j'étais très intimidé. Et Oran m'a dit, mais viens, tu fais un film qui s'appelle Monsieur Gaga, t'as qu'à te lancer dans le Gaga, toi aussi. Et je lui ai dit, mais non, c'est pas pour moi, ça. Parce que moi, je ne me vois pas dans un studio de danse avec des gens autour de moi, qui plus est, quelle gêne. Et il m'a dit, mais vas-y, lance-toi, essaye, 3 ou 4 fois. Bon, j'entre dans la pièce. Donc il y avait des gens, des petits, des grands, des gros, des minces, des gens, des Japonais, des Israéliens. Il n'y avait pas de glace donc. Et là, à ce moment-là, j'étais à un moment délicat dans ma vie. J'avais des soucis personnels, j'étais assez déprimé, un petit peu perdu. J'envisageais même des solutions radicales. Après 3 ou 4 expériences de Gaga, je suis reparti dans les rues de Tel Aviv et je suis revenu dans ma vie. Là, je vous ai dit que j'avais des moments difficiles dans ma vie. En fait, c'est mon ami qui m'a quitté, il m'a écrit une lettre. Mais ça mérite de faire un film. Donc Orad ne savait pas, il ne connaissait pas cette crise que je vivais. Il m'a dit, Thomas, tu as l'air d'un mort là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais j'ai dit, je ne vais pas partager ça avec toi, mais je veux bien me lancer dans ton Gaga là, allez. Et puis là, il s'agit de sensations, de rapport au ciel, aux oiseaux et ainsi de suite. Je suis rentré chez moi et je m'en suis rendu compte que la vie, c'était pas si mal après tout. Rien que le fait d'avoir fait quelques mouvements dans son studio, c'est ça, le pouvoir de Gaga.
To dance is not to perform.
Il y a une différence entre la danse et la performance. Vous pouvez danser tout seul dans votre salle de bain. Vous pouvez danser avec des amis. La danse, ce n'est pas forcément une performance, une expression artistique devant un public. Et moi, je voudrais faire comprendre que l'on danse non pas pour montrer quoi que ce soit à un public, c'est plus un besoin de survie. Même les meilleurs danseurs dansent non pas pour l'expression artistique, pour la performance, mais pour ressentir ce plaisir de la découverte. Et tous mes danseurs adorent danser, même quand ils sont seuls. Encore une fois, il ne s'agit pas du regard de l'autre. J'encourage les danseurs à être les spectateurs et non pas l'objet du regard des spectateurs.
Une journée non dansée, presque une journée perdue. On devrait tous danser et passer donc de cette danse qu'on a longtemps voulu présenter comme une danse souffrance, une danse de contrainte, à une danse guérisseuse. Et c'est vraiment ça qu'on voit dans le documentaire de Tomer Eman sur vous, Ohad Naharin, Monsieur Gaga. Moi, je me tourne vers Valérie Donzelli parce que vous avez donc filmé La Danse, j'ai dit avec Main dans la Main. Vous allez à l'opéra pour faire un film sur un grand ténor. Jonas Kaufmann sur la plateforme, Troisième Scène. Et vous, lorsque vous entendez ce rapport comme ça, libéré, on va dire, à la danse qu'a Ohad Naharin, qu'est-ce que la petite fille qui voulait être danseuse au Lido ressent à cette écoute? Est-ce que vous lanceriez pas comme Tomer Eman qui finalement s'est dit tiens, je vais rentrer dans un studio de danse?
Mais je pense que j'ai une vraie, pour le coup, frustration dans ma vie, c'est de pas avoir plus dansé en fait et plus pratiqué. Alors je danse à ma façon, c'est-à-dire que je me rends compte quand ma façon de marcher, quelquefois je me dis mais ça va pas, je marche à toute vitesse, je suis là bam bam, je vais à droite, je vais à gauche, comme une espèce de pile électrique quoi, mais j'ai un rapport à mon corps en fait qui est pas du tout satisfaisant. C'est-à-dire je sens que j'ai un corps de sportive, alors je fais pas de sport et j'ai besoin d'exprimer des choses avec mon corps que je n'exprime pas toujours comme il faut. Donc ça passe par voilà une énergie que je mets dans mon travail, etc. Mais c'est vrai que j'avais envie de poser comme question, est-ce qu'on peut faire partie de ce mouvement à Paris? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut pratiquer le mouvement Gaga?
Ohad Naharin, en fait. Valérie Donzelli veut vous rejoindre dans le mouvement Gaga. Moi aussi, d'ailleurs.
Well, we have the pool of teachers all over, and we do it in
many countries. Nous avons de nombreux enseignants. Il y a une soixantaine d'enseignants et en réalité, c'est très difficile d'avoir le diplôme pour enseigner le Gaga. Mais à terme,
moi,
ça va venir à Paris.
Je
ne
veux pas enseigner, je veux pratiquer.
Non, I'm talking about.
Mais c'est ce que je vous dis. On n'a pas d'enseignants malheureusement à Paris. On n'a pas suffisamment.
Il faut donc devenir professeur à Paris. C'est ça le secret.
We do have sometimes workshops and.
Mais parfois, nous organisons des ateliers. Ça marchera. Ça marchera. Ça se fera. Ou alors venez en Israël, voilà.
Valérie Donzelli, non seulement vous êtes cinéaste, scénariste, donc membre du jury, présidente du jury de la semaine de la critique à Cannes il y a quelques jours, mais vous êtes aussi comédienne, on le sait, on vous connaît aussi sous le regard des autres cinéastes. Est-ce que de faire l'actrice, de jouer la comédie, ça vous apporte quelque chose, sinon de guérisseur, du moins d'enchanteur dans l'existence et vous permet de retrouver le sourire et d'entendre chanter les oiseaux comme Tomer Eman quand il s'est mis à la danse?
Pas tellement, parce qu'en fait, les films, j'aime bien jouer dans mes films parce que je sais qu'il y a quelque chose d'assez physique, d'assez rythmé, qui passe par le corps, parce que moi, j'aime bien filmer le corps, etc. Mais je trouve que souvent, dans les films français, quoi, le corps est moins existant, en fait. Et moi, les rôles que j'ai pu avoir au cinéma, dans des films dirigés par d'autres metteurs en scène, c'est souvent des rôles de femmes assez tristes. Enfin, c'est pas tellement là-dedans que je. Après, j'adore être actrice parce que j'adore être l'objet de quelqu'un et me laisser complètement m'abandonner, justement, être dans la fameuse extase contrôlée où on doit à la fois contrôler et en même temps s'abandonner totalement sous le regard d'un metteur en scène et être une sorte de poupée, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez plaisant de faire partie, d'être la matière première d'un film et de finalement réussir à créer de l'émotion en jouant avec ses propres émotions qui sont en même temps des émotions fabriquées. Donc c'est une vraie interprétation, quoi. Et d'ailleurs, quand Jonas me parlait de son travail, ça se rapprochait beaucoup. Enfin, j'y voyais beaucoup d'écho avec le métier d'acteur, bien sûr.
Mais il y a de l'athlétisme chez vous, finalement. On dit que pour les metteurs en scène et les cinéastes, aller à Cannes, c'est comme participer au JO. Vous y êtes allé pour défendre un film, Marguerite et Julien. Là, vous étiez président de la scène de la critique. Vous y étiez déjà donc pour La guerre est déclarée, qui avait été un grand moment de la scène de la critique. Est-ce que vous vous sentez, vous aussi, comme ça, un peu une athlète du cinéma?
Ouais, je me sens un peu une athlète tout court. J'ai l'impression que, de toute façon, on est tous un peu des athlètes, quoi. Il y a quelque chose... C'est difficile de faire avec la vie sans... avoir ce rapport comme ça, où parfois il faut, il faut faire les choses. On sent qu'il y a des rapports de vitesse différents dans la vie. Parfois on doit faire des sprints, parfois on doit faire des courses de fond, parfois on doit faire, voilà. Donc on est tous un peu athlètes polyvalents, quoi. Alors parfois on se tord la cheville et on est un peu tout chamboulé, mais voilà, et on est bien obligé d'y aller, quoi. On nous a mis dedans et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment on crée quelque chose? Comment on crée sa propre vie, comment on...
Tomer Eman, Oana Arin peut soutient notamment que la danse engendre le rire. Vous, vous avez écrit, votre premier film, c'était « Laugh till I cry », rire jusqu'à en pleurer. Alors, est-ce que vous avez pleuré ou est-ce que vous avez ri aux côtés de Oana Arin sur le tournage de ce documentaire?
Mais en toute honnêteté envers moi-même, je dirais qu'il faut que je remonte à l'âge de 21 ans. C'est là que j'ai commencé à le suivre à son insu, d'ailleurs, il ne savait pas. Je suis allé à un spectacle. Pour la première fois de ma vie, moi je suis originaire d'un petit village, là où la danse n'existe pas. Et lorsque je suis allé voir Kiel, je m'attendais à rien. Je suis arrivé et ça m'a époustouflé, ça m'a chaviré le cœur. C'était un moment qui m'a transformé. Et peut-être que c'est ça qui a fait de moi un artiste.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Sera-t-il dansé? Sera-t-il chanté? Peut-être. Le disque du jour, c'est avec vous, Zoé.
Oui, puisque c'est le disque d'un artiste assez total. C'est le merveilleux nouvel album d'Anthony Joseph. Il faut le dire, il est romancier,
c'est primé un poète
plusieurs fois pour sa poésie et pour ses romans à Londres où il vit. Mais il est aussi, et il est très bien, musicien. De son nouvel album Caribbean Roots, très difficile à dire, il explore, en fait, il se réapproprie la musique des Antilles où il a grandi, précisément à Trinidad, pétri donc de calypso et autres danses languide. Dans cet album-là, on retrouve des instruments qu'on entend nulle part ailleurs, le tombélé, le mendé. Il s'est aussi entouré de grands, grands musiciens d'un peu partout, le saxophone des Heliocentrize, la basse de Salif Keita, pour produire un son profondément caribéen, profondément universel, pleine de cuivre, pleine de bonnes choses, une musique profondément intelligente. On écoute justement Neckbone en duo avec Sly Johnson.
Call me Neckbone. I'm a man. And this is how one day I burned down the brewery. 6th of July, 1989. The foreman come, he say, Neckbone, you're late again. He say, Neckbone. I say, yeah. He say, bring your black ass here and clean up this shit for me. I say, boss man. He say, yes. I say, it's work, I come to work, you know. But mind how you talk to me. And then two bone come out.
Yeah. They never tell you bucket bottom must drop off. You feel you bad, but I'm bad at that bottom. And I don't wanna hear your nonsense in my head. I know you vex, but I could beg for this now. I don't wanna hear your aura in my brain. I know you vex, but I could beg for it. No, I don't wanna hear your old man talk again.
In Jamaica, I make a jail. I bat a man one day, and they charge me with battery. In St. Kitts, I beat police. I used to smoke hard weed in church till they charged me with blasphemy. They say, Neckbone! I say, yeah. This is how one day I burned down the brewery. Well, we wrestle upright like dog till I strike a match in there and mash up that industry.
Neckbone, Sly Johnson et Anthony Joseph, son nouvel album Caribbean Roots sort aujourd'hui. Sachez qu'il sera en concert le 21 juillet aux Carrières dans le cadre du festival Jazz à Junas. C'est à Junas, c'est le 22 juillet à La Grasse dans le cadre du festival Abracadagrasse.
Et sachez que ce poète londonien et caribéen sera avec nous dans le cadre d'une journée spéciale sur France Culture autour du peut-être ou pas Brexit. Ping pong, c'est déjà fini.
Merci beaucoup à tous trois, à tous quatre, en réalité, avec la complicité de Xavier Combes à l'interprétation. Merci Valérie Donzelli, Oana Arin et Tomer Eman. Valérie Donzelli, donc votre nouveau film, suivez donc la mesure, avec la complicité autour et avec Jonas Kaufmann, grand ténor de l'opéra. C'est à découvrir sur Troisième Scène, cette plateforme digitale numérique de l'Opéra National de Paris.
Qui lance son application.
qui lance son application pour les tablettes notamment, et qu'on peut redécouvrir sur les internets si on n'a pas de tablette à la maison. Quant à vous, Oad Naharin, vous êtes donc la star, la vedette, l'étoile, comment on dit en mazel, en hébreu, l'étoile?
Why?
Because you're a star.
There's so many stars, more than sand in the sea.
Non, il y a plus d'étoiles que de grains de sable sur les plages de toutes les mers du monde.
Oh. Il y a quelques étoiles donc dans Monsieur Gaga, dans les pas de Oad Naharin, un film documentaire signé Tomer Eman sur nos écrans mercredi prochain.
Le ping-pong est un geste radiophonique qui se libère en équipe. Et quelle équipe ? À la rédaction, Aïssat Wendoy, Hélène Delis et Mathilde Cadreau. À la réalisation, Rafik Zénine, la programmation musicale, Thomas Beau. Et la prise de son ce soir, Nicolas Delmas.
Mais quid de notre lundi, Mathilde ?
Lundi, une autre femme est possible dans les séries, avec Gérard Vajman et Iris Bray.